Chapitre 7. La progression rapide du message. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Un ange, symbole de messager humain. Comme déjà indiqué, l'œuvre de la prédication de l'Évangile a été confiée à l'homme, et le Seigneur a promis sa bénédiction sur cette instrumentalité jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. Ainsi, l'ange portant ce message doit être un symbole d'un message concernant le temps qui doit être prêché aux habitants de la terre. Le message est proclamé à partir d'un livre qui est ouvert, ce qui implique clairement qu'il fut auparavant fermé. Ces messagers sont estimés de Dieu, car l'arc, un signe de l'alliance de Dieu, est au-dessus d'eux, et ils sont revêtus de la lumière de la gloire de Dieu et donnent leur message avec l'autorité du Créateur de toutes choses. Ce qui est déclaré ici est un message du temps, autrefois scellé, mais maintenant proclamé à partir d'un livre ouvert. Dans les chapitres précédents, il a été prouvé que le Seigneur marqua l'époque où la lumière devait être donnée concernant la fin de la grande période prophétique de 2300 jours, conduisant au jugement investigatif. Que la prédiction de l'augmentation de la connaissance fut accomplie de manière précise par l'apparition d'un grand nombre de personnes à qui il révéla cette lumière, et qu'il a également marqué l'époque où la parabole du figuier devait être apprise, en poussant ses enseignants, çà et là, à aller annoncer cette parabole au monde. Tout aussi précisément, il a marqué le moment où le message concernant le temps devait s'amplifier en un grand cri, et cela fut accompli avec tout autant de précision. Le grand cri du premier message. Le moment où le grand cri de cette proclamation devait être donné est un sujet intéressant. Il est placé ici entre le retentissement des sixième et septième trompettes, ce qui peut être vu non seulement par sa position dans l'Écriture sainte, mais par le message lui-même, qui dit « Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » C'est une preuve concluante que le temps proclamé dans ce message s'étend à la sonnerie de la septième trompette. L'époque du grand cri. Lorsque le septième ange sonne de la trompette, nous lisons que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Apocalypse 11, verset 19. Dans le service du sanctuaire terrestre, l'appartement contenant l'arche, le lieu très saint, n'était ouvert qu'une fois par an. C'était au jour des expiations, qui était le jour de la purification du sanctuaire, dans le but d'effacer les péchés. Le temps annoncé par les prophètes, où ce travail de purification accompli par Christ devait avoir lieu, est à la fin des 2300 jours. Daniel 8, verset 14. Il est également précisé que lorsque le septième ange sonnerait de la trompette, des voix dans le ciel diraient que le temps est venu de juger les morts. Apocalypse 11, verset 18. Ce symbole prophétique d'Apocalypse 10 présente le moment où ce message doit aller de l'avant d'une voix forte, et enfin, comme lorsqu'un lion mugit. L'époque où, selon cette prophétie, le message devait devenir un grand cri, et depuis la fin de la sixième trompette jusqu'à la fin de cette période prophétique conduisant à la purification du sanctuaire, en d'autres termes, jusqu'à la fin des 2300 jours. Les quatre premières trompettes ont été accomplies dans les guerres des Goths, Vandales, Huns etc., qui divisèrent la Rome occidentale en 10 parties ou royaumes. La cinquième trompette. La cinquième trompette représente la montée de l'islam avec son nuage d'erreurs, mais surtout la période de 5 mois, ou 150 années littérales, depuis le moment où ils eurent un roi sur eux. Le 27 juillet 1299, Othman, le fondateur de l'Empire ottoman, envahit le territoire de Nicomédie. À partir de ce moment, les Ottomans harcelèrent et tourmentèrent l'Empire de la Rome orientale jusqu'au 27 juillet 1449, les 150 ans du retentissement de la cinquième trompette. À cette date, les Turcs sont venus avec leurs forces contre la ville de Constantinople elle-même, utilisant la poudre à canon dans leur guerre, et à l'aide d'un canon énorme, ils envoyaient de gros rochers contre les murs de Constantinople. L'historien Gibbon dit que 60 bœufs étaient nécessaires pour tirer ce canon. La fin de la sixième trompette. Environ à cette époque, Jean Paléologue, défini par les historiens comme le dernier empereur grec, est mort. Constantin Dragacès était l'héritier légitime du trône, mais il est dit que sa crainte de Mourad II, le sultan turc qui lui faisait la guerre, l'a amené à lui demander la permission de monter sur le trône. Un tel acte semblerait presque une résignation du trône aux Turcs. En fait, en très peu de temps, les Ottomans eurent possession de la ville de Constantinople et de l'Empire romain oriental. Ainsi, ils tuèrent, politiquement, l'empire qu'ils avaient précédemment tourmenté. Ils le tuèrent pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Si on prend cela comme une période prophétique, un jour équivalent à une année, combien de temps cela fait-il ? Le problème est simple. Une année, 360 jours ou année, un mois, 30 jours ou année, et un jour, un an, en tout 391 jours, ou littéralement 391 ans. Une heure étant la 24e partie d'une journée, est donc le symbole de la moitié d'un mois, ou 15 jours. Le temps total de l'autorité mahométane indépendante sur le territoire romain oriental serait donc de 391 ans et 15 jours. Ceci, ajouté au 27 juillet 1449, nous amène au 11 août 1840 pour la fin de la période de l'indépendance turque telle qu'elle est établie dans la sixième trompette. Docteur Josiah Leach prédit la chute de l'Empire ottoman. En 1838, Docteur Josiah Leach, de Philadelphie, Pennsylvanie, embrassa la vérité énoncée par William Miller et s'unit au travail de donner une plus grande publicité au message. Il prépara des articles à imprimer pour le public au sujet des sept trompettes de l'Apocalypse. Il prit la position inconditionnelle que la sixième trompette cesserait de sonner et que la puissance ottomane tomberait le 11 août 1840, et que cela prouverait au monde entier qu'un jour d'une prophétie symbolique représente un an de temps littéral. Certains des frères, même ceux qui croyaient comme lui sur ce point, tremblaient de peur au cas où le résultat ne devait pas se produire, comme il disait. Cela ne l'a cependant pas découragé, mais il est allé de l'avant, faisant tout en son pouvoir pour faire connaître son point de vue sur la question turque. Des journaux publics répandirent à l'étranger l'assertion qu'il avait faite sur le sujet. Des clubs d'infidèles examinaient la question dans leurs réunions et disaient « Voici un homme qui ose quelque chose, et si cette affaire se réalise comme il le dit, cela établira son assertion sans l'ombre d'un doute qu'un jour dans la prophétie est le symbole d'un an, et que les 2300 jours sont autant d'années, et qu'elles prendront fin en 1844. » La publication de l'exposé de Dr. Leach provoqua une agitation générale, et plusieurs milliers furent ainsi appelés à attendre la fin des difficultés qui avaient surgi entre Mehmet Ali, le pacha d'Égypte, et le sultan turc. Des centaines dirent « Si cette affaire se termine comme le docteur l'a affirmé, cela établira le principe d'un jour pour une année pour interpréter le langage symbolique du temps, et nous serons adventistes. » Le sultan turc en guerre contre le pacha d'Égypte. Pendant plusieurs années, avant 1840, le sultan avait été impliqué dans une guerre contre Mehmet Ali, le pacha d'Égypte. En 1838, les problèmes entre le sultan et son vassal égyptien furent pour un temps contenus par l'influence des ambassadeurs étrangers. En 1839, cependant, les hostilités reprirent et continuèrent jusqu'à ce que, dans une bataille générale entre les armées du sultan et Mehmet, l'armée du sultan fut entièrement battue et détruite, et sa flotte capturée par Mehmet et emmenée en Égypte. Le sultan avait été si complètement battu que, lorsque la guerre recommença en août, il n'avait plus que 2 navires de premier ordre et 3 frégates comme triste reste de la flotte turque autrefois puissante. Mehmet refusa positivement d'abandonner et de retourner cette flotte au sultan, et déclara que si les pouvoirs européens tentaient de la lui prendre, il la brûlerait. C'est dans cet état qu'étaient les choses, lorsqu'en 1840, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse s'interposèrent et déterminèrent un règlement de la difficulté, parce qu'il était évident que si on le laissait faire, Mehmet ne tarderait pas à devenir maître du trône du sultan. Intervention des puissances alliées. Le sultan accepta cette intervention des puissances alliées et abandonna de fait volontairement la question entre leurs mains. Une conférence de ses pouvoirs se tint à Londres, avec la présence du cheikh Effendi Bey Liggis comme plénipotentiaire ottoman. On prépara, pour le présenter au pacha d'Égypte, un ultimatum par lequel le sultan lui offrait le gouvernement héréditaire d'Égypte et toute la partie de la Syrie qui s'étendait depuis le golfe de Suez jusqu'au lac de Tibériade, avec la province d'Acre, durant toute sa vie. Et lui devait évacuer tous les domaines du sultan qu'il occupait alors, et rendre la flotte ottomane. S'il refusait d'accepter l'offre du sultan, les 4 puissances prendraient les choses en main, et utiliseraient les moyens jugés convenables pour lui imposer les conditions. Il était clair que dès que cet ultimatum serait remis entre les mains de Mehmet Ali, pacha d'Égypte, le sujet serait pour toujours hors du contrôle du sultan, et la disposition de ses affaires serait dès lors entre les mains des puissances étrangères. La prophétie accomplie. Fin de l'indépendance turque. Le sultan envoya Rifat Bey à Alexandrie sur un bateau à vapeur du gouvernement, pour qu'il communique l'ultimatum au pacha. L'ultimatum fut placé entre ses mains, et il en prit charge le 11 août 1840. Ce même jour, à Constantinople, le sultan envoya une note aux ambassadeurs des 4 puissances pour leur demander quel plan ils devaient adopter si les conditions de l'ultimatum étaient refusées, ce à quoi ils répondirent que les mesures nécessaires avaient été prises et qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer au sujet de n'importe quelle éventualité qui pourrait se présenter. En ce jour, la période de 391 ans et 15 jours accordée au pouvoir ottoman prit fin. Et que devint l'indépendance du sultan ? Elle avait disparu. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le sultan a dû agir sous la dictée des puissances alliées et regarder le démembrement de son royaume, alors que morceau par morceau, ce dernier a été approprié à leur propre usage. Montée de l'intérêt du public pour la prophétie. Ce remarquable accomplissement de la prophétie eut un effet énorme sur l'esprit du public. Il intensifia l'intérêt de la population pour les prophéties accomplies et en train de s'accomplir. Dr. Leach dit qu'en quelques mois après le 11 août 1840, il reçut des lettres de plus d'un millier de personnalités non-croyantes, parmi elles des dirigeants de clubs d'athées, dans lesquels ils déclaraient qu'ils avaient abandonné la bataille contre la Bible et l'avaient acceptée comme la révélation de Dieu à l'homme. Certains d'entre eux furent entièrement convertis à Dieu, et certains devinrent des orateurs capables dans le grand mouvement du second avènement. Certains se sont exprimés ainsi au Dr. Leach. Nous avons dit que ceux qui présentaient la prophétie citaient les pages moisies de l'histoire pour justifier leurs assertions d'accomplissement prophétique. Mais dans le cas présent, nous avons les faits vivants sous nos yeux. Pour illustrer comment, juste à la fin de la 6e trompette, le message adventiste commença à être propagé à haute voix, je donnerai un exemple tel qu'il m'a été raconté par l'un des acteurs de ce message. En 1840, Williams, un gros fabricant de tentes et de voiles de Rochester, New York, accepta le message et invita les frères Miller et Himes à venir à Rochester pour parler aux milliers d'habitants de cette ville. Ils répondirent qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour se procurer une salle de taille suffisante pour accueillir les gens. Il répondit : j'ai une tente circulaire de 40 mètres de diamètre. Je la planterai, j'installerai les sièges et j'en prendrai soin, gratuitement. Venez et proclamez le message. Ils vinrent, m'a-t-il dit, et la tente ne pouvait contenir la moitié de ceux qui vinrent écouter. J'ai donc mis une épissure de 15 mètres pour faire une tente de 55 mètres sur 40. Cette tente était remplie de monde tous les jours, et des centaines de personnes se pressaient à l'extérieur, tous impatients d'entendre la parole. Des centaines proclamant le message. Pour répondre à l'intérêt croissant, de grandes tentes furent utilisées, et des réunions eurent lieu en été dans les bois. Certains des plus grands bâtiments d'église et des salles publiques furent utilisés au cours de l'hiver, et tous étaient pleins à craquer d'auditeurs intéressés. Au lieu de voir frère Miller se tenir presque seul, comme il l'était avant 1840, à annoncer le message, environ 300 personnes le rejoignirent pour proclamer publiquement la fin des 2300 jours et pour lancer le cri « Il n'y aura plus de temps » et « L'heure de son jugement est venue ». Ainsi, nous voyons comment, quand le temps du Seigneur vint pour que le message progresse dans le monde entier, sa parole fut accomplie, et des millions furent poussés par le désir d'entendre l'appel. Ce qui était vrai du mouvement en Amérique était vrai dans d'autres pays. À partir de 1840, à la place de quelques individus propageant leurs publications, des dizaines surgirent, pour ainsi dire, sur le front pour proclamer le message. En Angleterre, il y avait 700 ministres, rien que de l'Église d'Angleterre, à proclamer le message, sans parler des dizaines d'autres personnes engagées dans le même travail. Dans plus d'une vingtaine de nations importantes de la Terre, un message allait avec un zèle qui conduisit les observateurs à dire « Ces gens sont terriblement zélés.